Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 18 octobre 2021 et aujourd'hui, enfin depuis vendredi dernier, monsieur Elon Musk est donc définitivement l'homme le plus riche du monde. Il pèse 230 milliards de dollars si on additionne son capital à la société SpaceX et son capital à la société Tesla, qui n'arrête pas de monter d'ailleurs. Et donc à partir d'aujourd'hui, il est aussi riche que monsieur Warren Buffett et monsieur Bill Gates réunis. Monsieur Bill Gates post-divorce. Ceci mis à part, nous sommes dans un bull market à nouveau. On a complètement oublié nos craintes de la semaine dernière. Tout est axé sur les résultats de la semaine à venir et de la semaine d'après surtout. La semaine d'après sera très très grosse, mais cette semaine on va prendre en pleine face les résultats de la techno. Et si c'est bon, eh bien il n'y a rien d'autre à dire que nous serons de retour au plus haut de tous les temps. Donc oui, c'est une semaine de résultats cette semaine. On attaque aujourd'hui avec Philips. C'est un peu la seule truc intéressante et la production industrielle qu'on aura cet après-midi aux États-Unis. Mais globalement, ce qu'il faudra surtout faire attention, c'est les chiffres de Netflix demain, puisque c'est la première, on va dire, techno-moderne récente qui va publier. Ensuite, après, on aura ASML, on aura Lam Research et puis on aura Tesla mercredi soir qui devrait renforcer encore ce que je viens de vous dire à propos de Monsieur Elon Musk, s'il avait encore besoin de menu monnaie pour passer le week-end. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous sommes clairement concentrés sur les chiffres du trimestre. Il n'y a plus que ça qui compte. Pour l'instant, les chiffres à côté, bah, ils sont un peu mis à l'as. On a vu les chiffres la semaine dernière qui étaient bons, plus ou moins, pas trop euphoriques non plus. Mais bon, on est clair qu'aujourd'hui, on sait qu'on aura le tapering qui sera annoncé début novembre. Donc ça, on a mis un peu les choses de côté. On sait que l'inflation, elle est en train de nous péter la figure. Mais ça, on s'en fout complètement. On regarde plutôt avec contentement, joie et bonheur le pétrole montait à toute vitesse, puisque ce matin, il est pas loin des 83$ et ça n'arrête pas de monter. C'est vu de vue, on dirait une crypto-monnaie quand on regarde la tronche du chart en tous les cas. Mais ça, ça n'inquiète pas les investisseurs. Hein, plus de problème d'inflation. Bon, c'est clair, si on gagne tellement de pognon à côté sur les actions, on n'aura pas de problème à aller faire le plein d'essence quand il vaudra, quand le pétrole sera à 100$. Donc voilà, aujourd'hui, pour l'instant, je crois qu'on commence la semaine en pente douce. Il n'y a pas d'énormes choses à dire. On voit quand même que les marchés sont à nouveau positif. Évidemment, tout sera concentré sur les chiffres, mais on a deux, trois bonnes nouvelles qui viennent d'arriver aujourd'hui, comme par exemple Moderna et Pfizer, qui ont annoncé d'ores et déjà qu'ils vont avoir 90 milliards de sales, de ventes, au niveau des vaccins l'année prochaine, donc beaucoup mieux que cette année. Ce qui veut dire que si on fait un calcul rapide, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de vaccinations que ça avait. Donc, ce qui voudrait dire que non seulement 100% des populations seront vaccinées, mais en plus, ils seront vaccinés 4 fois. Donc, voilà, gros potentiel de hausse et de performance au niveau des ventes chez Moderna et chez Pfizer. Et puis, autrement, on a eu les chiffres du GDP chinois ce matin, qui n'étaient évidemment pas bons. Alors, pas aux surprises, on le savait tous, on a 4,9% de croissance sur le trimestre. C'est évidemment pas terrible, enfin 4,9% de croissance, je connais certains pays qui aimeraient bien avoir ce genre de croissance. Néanmoins, c'est une déception pour la Chine. Ce matin, les marchés asiatiques sont légèrement en baisse, les futurs aux États-Unis restent plus ou moins les mêmes, donc il n'y a pas de grosses surprises, on est en attente. Je pense qu'aujourd'hui, ça risque d'être une journée attentiste. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que les résultats de Philips qui risquent de nous faire bouger les choses. Alors, il y a peut-être un petit rattrapage en Europe, mais franchement, on n'a pas l'impression que ça va être la journée des grandes manœuvres, mais ça commencera effectivement demain. Autrement, si on doit résumer la situation, donc les bancaires ont publié des chiffres carton géniaux partout, un peu partout. Donc, on attend un peu la même chose sur les autres sociétés. Maintenant, on va surtout, comme je vous l'ai dit, d'avoir ce côté techno. Est-ce que les technos vont bien répondre avec les bons chiffres de TSMC? La semaine dernière, on a eu un déclenchement, un rebond assez spectaculaire sur tout le secteur des semi-conducteurs. Vous regardez par exemple le comportement d'ASML qui publiera ses résultats mercredi matin. ASML a fait une très très belle réaction sur les annonces de TSMC, donc on peut s'attendre qu'il y ait déjà une partie des choses qui soient dans les prix. À côté de ça, si on va creuser un tout petit peu plus loin, on va revenir brièvement sur les GAFAM. Les GAFAM, on en a plus beaucoup parlé ces temps parce que c'était plus tellement à la mode. Et aujourd'hui, on a un marché qui est bien revenu, on a un Nasdaq qui est juste sous la moyenne mobile des 50 jours, donc il va devoir passer en dessus s'il a des intentions, des velléités pour aller chercher les plus hauts de tous les temps sur l'indice. Et quand vous regardez un petit peu l'environnement des GAFAM, eh bien vous avez quoi ? Vous avez un chart qui est assez joli, plutôt intéressant et plutôt bullish. Si on savait pas ce que c'était, j'achèterais assez volontiers ce chart-là, c'est celui d'Apple. Apple a une configuration un peu en retard, joliment technique, belle construction pour l'instant. On peut espérer voir Apple retourner aussi un peu plus haut en fonction des chiffres qui seront publiés la semaine prochaine. Même chose chez Microsoft. Alors Microsoft, ça fait partie de ces graphiques là où on se dit mais ça c'est juste explosif. Il suffit que Microsoft sorte des résultats canons et on a un potentiel à l'aise de 10% de hausse sur les chiffres de Microsoft. Là aussi, très beau chart. Google, on n'en parle même pas parce que Google, ils font toujours tout juste. Donc pour l'instant, on ne va pas trop s'inquiéter. Rebond assez massif de Amazon la semaine dernière, vendredi dernier. Donc on voit que ça commence un peu à bouger aussi de ce côté-là. Et puis franchement, il y a un titre que j'ai vraiment envie de jouer. Mais Dieu sait si je le déteste. Mais j'ai vraiment envie de le jouer pour les résultats du trimestre. C'est Facebook. Alors Facebook, vous le voyez sur le graphique à l'instant. Facebook s'est pris une tôle ces derniers temps pour les raisons qu'on connaît, hein, toutes ces problématiques de whistleblower, de lanceur d'alerte qui dit que Facebook fait du mal, que Facebook n'est pas gentil avec les êtres humains. Oui, ça on sait, enfin je veux dire, Facebook il fait ressortir tout le pire qu'il y a en chacun de nous, puisqu'on a ce besoin de montrer, de publier plein de trucs sur Facebook sans arrêt. Donc malgré tout ça, c'est devenu un moteur de publicité absolument phénoménal, plus personne fait de la pub nulle part ailleurs. À chaque trimestre, les chiffres de Facebook sont spectaculaires, et très sincèrement, amende ou pas amende, problème juridique ou pas, je ne suis pas convaincu que les chiffres seront mauvais ce trimestre-là, bien au contraire. Donc il va falloir surveiller ça très attentivement parce que techniquement, après la correction que Facebook vient nous envoyer depuis quelques semaines et là où elle se trouve sur les supports de la moyenne mobile de 200 jours, franchement, moi j'ai vraiment envie de me positionner pour jouer les résultats. Dieu sait si je déteste jouer les résultats et Dieu sait si je déteste Facebook, mais là franchement, comme Paris, ça me paraît quand même assez intéressant à jouer. J'ai presque envie de le jouer avec un varon pour dire « Ok, je mets 1000 ou 2000 francs et puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis pour moi. » Mais c'est plutôt un pari pour jouer un rebond assez impressionnant lors de la publication des chiffres de Facebook. On y reviendra un peu la semaine prochaine. Mais moi, personnellement, à ce niveau-là, je la trouve plutôt sexy. Même si, encore une fois, je le répète, je n'aime pas la boîte, je n'aime pas Zuckerberg et je n'aime pas jouer les résultats. Mais néanmoins, malheureusement, ça fait partie de ces réseaux sociaux de ces réseaux sociaux qui sont là avec nous et qu'il va falloir composer avec. Et à chaque fois, ils nous ont surpris à la hausse. Je vois pas pourquoi, cette fois, parce que cette nana est en train de faire le tour des médias américains pour dire que Facebook, c'est pas bien, eh bien, tout d'un coup, ça changerait la perspective de Facebook. Donc, j'ai peut-être envie de jouer un truc vraiment hyper spec pour jouer le rebond de Facebook lors de la publication des résultats. Donc voilà, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché est en meilleure forme qu'il y a une semaine. On a l'impression qu'on a un peu oublié toutes nos problématiques inflationnistes, ralentissement chinois, etc., ce qui nous inquiétait massivement. Puis l'energy crunch, alors on parle même plus de l'energy crunch. Et donc, pour l'instant, on est plutôt bien disposé. Il va falloir confirmer le rebond qu'on a fait jeudi et vendredi. Et la confirmation viendra donc avec les chiffres ces prochains jours, avec les cassures des moyennes mobiles des 50 jours pour les indices techno, c'est fait pour le S&P 500, c'est fait pour le Dow Jones. Le Dow Jones n'est plus qu'à ça des plus hauts de tous les temps. Le Nasdaq doit casser ses moyennes mobiles, le SOX aussi. Donc il y a encore un peu de boulot à faire, mais on est un peu dans cette phase de rebond assez spectaculaire. Et surtout, comme vous voyez, le sentiment, il a massivement changé. Il y a autre chose qu'on doit aborder aujourd'hui, c'est l'arrivée sur les marchés d'un ETF sur le Bitcoin. Alors c'est étrange, hein, on devait avoir la SEC, les autorités financières américaines, qui nous validaient ce nouvel ETF exclusivement Bitcoin qui va être lancé par la boîte ProShares qui s'appellera BITO, le symbole BITO. Et donc la SEC devait valider la chose. Ils n'ont pas validé officiellement, ils l'ont pas invalidé non plus. Donc il se dit qu'apparemment ça va commencer à traiter mardi sous une espèce d'omerta, on sait pas trop, c'est vraiment bizarre comme situation. Alors j'attends de voir un petit peu, mais apparemment le ETF Bitcoin va traiter sans avoir reçu une autorisation ou une bénédiction officielle. Alors c'est clair qu'il doit avoir toutes les autorisations nécessaires, mais par contre la SEC n'a pas dit oui, nous bénissons l'arrivée d'un nouveau Bitcoin, d'un nouveau ETF Bitcoin sur le marché, allez-y mes frères. Je pense pas que c'est ce qu'ils ont dit, mais en tous les cas ça devrait démarrer, on parle de demain, donc de mardi, donc ETF BITO 100% Bitcoin. Ce qui devrait, en théorie, motiver encore le Bitcoin à aller encore plus haut. Ça tombe bien, il est juste pratiquement au plus haut historique, donc il va certainement y chercher les plus hauts de tous les temps. Et puis après, mystère et boule de gomme. Pour l'instant, il y a de la peine à tirer le reste du secteur, parce que l'Ether est toujours sous sa résistance des 3900. Mais si ça commence à accélérer un peu encore maintenant, on pourra avoir, une belle saison des résultats, mais ça dépendra de Netflix, de Tesla, puis après des GAFAM la semaine prochaine. Mais en plus, une belle fin de mois d'octobre pour le secteur des crypto-monnaies, qui a déjà un très très beau mois d'octobre pour l'instant. Donc, un mois d'octobre qui était censé être pourri à la base est en train de se transformer finalement en très joli mois d'octobre. Et si ça se termine comme ça dans les 13 jours qui nous restent, eh bien, encore une fois, ce sera un échec du mois d'octobre pourri, puisque cette année, c'est l'année des crashs. Ben non, ça sera peut-être pas encore pour cette année. On est déjà en train de partir, d'anticiper le Christmas Rally, visiblement, pour l'instant. Mais ne nous emballons pas. On a encore 2-3 petites choses à surveiller ces prochains temps. Et la question du jour aujourd'hui, elle est sur Ford Motors. J'ai une personne qui m'a envoyé un message aujourd'hui en me disant « Mais est-ce que tu penses qu'elle a encore beaucoup de potentiel ? Je fais une performance de 43% sur Ford. Est-ce que l'histoire avec Rivian derrière peut être positive ? Est-ce que je dois garder ? Est-ce que je dois vendre ?» Alors, vous me dites dans votre question, ça me fait 43% de performance et ça représente aujourd'hui 22% de mon portefeuille. Alors, disons que quand on regarde un peu les évaluations aujourd'hui, Ford n'est pas bon marché. Quand on regarde les analystes, les attentes des analystes, on est quasiment plus ou moins sur les targets des plus bullish. Donc moi, j'aurais tendance à ce niveau-là, déjà la première chose, à réduire l'exposition. Parce que 22% sur une action dans un portefeuille, c'est beaucoup trop. Quoi qu'il en soit, moi, je réduirais mon exposition de ce côté-là. Donc à la limite, réduisez la moitié de la position et gardez le reste pour voir comment ça continue et piloter cette position réduite avec un peu plus de confort. L'évolution de Ford aujourd'hui, c'est clair que c'est une transition massive sur la voiture électrique. Moi qui suis un fan de la Ford Mustang des années 60 devant l'éternel, autant vous dire que c'est la grosse déception de ce côté-là. Mais bon, on passe sur la voiture électrique et c'est un peu cette transition-là qui va booster probablement l'avenir de Ford et repenser l'avenir de Ford. Pour moi, Ford, elle a un avenir aux États-Unis parce qu'elle fait partie des 3-4 grosses marques américaines qui doivent continuer à vivre, ne serait-ce que historiquement parlant. Donc du coup, je pense qu'il y a encore un potentiel, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, elle est beaucoup remontée. Quand on regarde depuis les plus bas, la performance est stratosphérique. On le voit sur votre portefeuille. Et quand on voit globalement là où on en est, et quand on voit les attentes, on a l'impression qu'on est un petit peu en bout de course. Évidemment que les résultats qu'ils vont publier bientôt seront aussi importants à interpréter. Donc c'est pour ça. Moi, c'est difficile de vous dire vendez tout maintenant. J'ai l'impression qu'elle peut prendre encore $1 ou $2 techniquement. Mais après, quand vous me dites 22% d'exposition dans le portefeuille, moi, je mettrais quand même ça comme warning et comme réflexion globale. Donc, tout vendre, non. Réduire la position, oui, pour attendre les résultats et voir si ça va un peu plus haut. Il y a peut-être un manque à gagner à faire, je le reconnais. Mais la réduction du risque et la maîtrise du risque, pour moi, est relativement plus importante dans votre portefeuille que prendre des risques inconsidérés puis avoir tout coup une énorme déception sur les résultats et perdre 10-12% sur votre résultat juste à cause de ça. Pour le reste, eh bien, c'est en lundi, c'est comme en lundi, comme on dit souvent. Voilà, pas mal de choses. On sent un sentiment relativement constructif, mais quand même, on demande confirmation. Autrement, pour le reste, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse Côte Suisse, si ce n'est pas fait encore. N'oubliez pas qu'on a le groupe Facebook aussi, sur lequel vous pouvez vous inscrire. On a déjà près de 350 membres en même pas une semaine, alors que le jour d'ouverture officielle, c'est aujourd'hui. Donc, on va essayer de communiquer de plus en plus sur ce groupe-là. Et puis, ben, moi, je vous retrouve demain, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker cette vidéo et passez une très bonne journée. Bye bye.